réplique, l'Ukraine, la Russie, l'Europe, avec François Bujon de Lestang et Philippe Delara. L'avenir de l'Europe se joue-t-il en Ukraine, comme l'affirme le philosophe Philippe Delara. L'opinion française n'en semble pas vraiment convaincue. Elle a certes admiré la résolution des manifestants de Maïdan, elle s'est félicitée de la chute du kleptocrate Viktor Yanukovych, mais aujourd'hui, elle ne semble accorder qu'une attention flottante à la politique de la Russie et elle ne paraît pas tout à fait concernée par le risque d'une guerre totale à l'est de l'Ukraine. On ne peut certes s'intéresser à tout, mais on aurait tort de négliger ce qui se passe à nos frontières ou de prendre à la légère l'ambition russe d'offrir un autre modèle politique et civilisationnel à l'Europe déboussolée. C'est pourquoi j'ai invité aujourd'hui Philippe Delara et François Bujon de Lestang, qui a été conseiller politique du Premier ministre de 1986 à 1988, ambassadeur de France au Canada de 1989 à 1991 et aux États-Unis de 1995 à 2002. Et comme le flottement de l'attention ne tient pas seulement à la versatilité constitutive de l'information qui sautille d'une urgence à l'autre, mais au caractère problématique, incertain, insaisissable de l'identité ukrainienne, je demanderai aux diplomates et aux philosophes de m'éclairer sur la mutation qui s'est produite en l'espace de deux décennies. Décembre 1991, 90% des habitants de l'Ukraine soviétique se prononcent pour l'indépendance. Novembre 2014, la Crimée a fait sécession et l'opposition entre l'Ouest et l'Est de l'Ukraine semble mener ce pays à l'éclatement. Comment expliquer ce contraste? D'où vient que l'unité nationale ait été brisée en si peu de temps? François Bujon de Lestang.
Ce n'est pas simple de répondre de façon lapidaire à une pareille question, car la réalité ukrainienne est très complexe. Vous avez tout à fait raison de souligner l'ampleur du vote en 1991 en faveur de l'indépendance. Il faut rappeler d'ailleurs, parce qu'on l'oublie toujours, que ce n'était pas la première indépendance de l'Ukraine. Et qu'en fait, après la révolution bolchevique en 1918, l'Ukraine, partiellement occupée par les Allemands d'ailleurs à cette époque, avait proclamé son indépendance, une indépendance qui a duré peu ou prou un an dans des conditions très tumultueuses avant que l'armée rouge n'y mette fin. Mais en 1991, l'Ukraine a affirmé son identité nationale et s'est posée en pays indépendant, s'est donné des institutions et s'est éloignée de la Russie tout en continuant bien entendu à entretenir avec elle des relations étroites, commerciales, financières, énergétiques bien entendu. Alors, il faut d'abord s'arrêter un instant sur l'Ukraine elle-même et bien constater que c'est un pays en partie composite, puisqu'il rassemble à la fois des provinces occidentales qui sont d'anciennes provinces, soit du Grand-Duché de Lituanie, soit de la Pologne, soit même de l'Autriche-Hongrie, comme la Galicie, par exemple. La Galicie qui était une province de l'Autriche-Hongrie, où on appelait les Ukrainiens des Rutènes à l'époque. Et puis toute une partie, au contraire, orientale, qui, elle, est beaucoup plus en symbiose avec le monde russe, qui est ce qu'on appelle, pour simplifier, le Donbass, c'est la région du Don, où l'on est russophone, où l'on est orthodoxe, alors qu'à l'ouest, on est ukrainophone et on est catholique ou uniate. Bon. Alors, c'est simple de dire les choses comme ça. La réalité est en fait plus complexe, puisque beaucoup de gens qui fréquentent l'Ukraine, qui la pratiquent, qui y voyagent, vous diront tous que les gens parlent un sabir mélangé d'ukrainien et de russe, que c'est pas parce qu'on est russophone qu'on n'est pas nationaliste ukrainien. Bon, il ne faut pas s'arrêter, si vous voulez, à ces grandes simplifications. Mais il faut garder à l'esprit ce premier fait que l'Ukraine est composite et qu'effectivement, on peut pour les besoins de la simplification, la diviser en deux parties. La seconde chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est le point auquel l'histoire de l'Ukraine a été mêlée à l'histoire de la Russie. Si on oublie ça, on ne peut pas comprendre cette affaire, on ne peut pas la comprendre du point de vue russe, notamment. L'Ukraine est extrêmement liée à l'histoire de la Russie. La Russie qui est Vienne est une des premières phases de la constitution de l'État russe. Ce sont entre le XIIe et le XIVe siècle, Kiev était la capitale de toutes les Russies. Et par la suite, bien entendu, les relations entre l'Ukraine et la Russie ont été très très étroites. On appelait l'Ukraine la petite Russie, d'ailleurs. Et c'est parce que, depuis Catherine la Grande, les Cosaques Zaporog, c'est-à-dire ceux qui sont à l'est du Dniepr, avaient fait soumission et allégeance au tsar, que l'Ukraine a été progressivement incorporée à l'Empire russe, au point d'ailleurs que la langue ukrainienne a été pratiquement éradiquée, en tout cas dans tout ce qui était l'intelligentsia, est restée simplement la langue du peuple, et que la petite Russie a été assimilée à la grande, au fond. Il faut garder ça à l'esprit pour comprendre ce qui s'est passé au cours de ces 20 dernières années. Schématiquement, au cours de ces 20 dernières années, on a eu plusieurs phases. On a eu une première phase pendant laquelle, à partir de 1994, avec la révolution dite orange, c'est-à-dire une révolution spontanée, europhile, des institutions ukrainiennes conduites par le président Yushchenko, le premier ministre Yulia Tymoshenko, ont cherché à sortir l'Ukraine le plus possible de l'orbite russe. Les dissensions internes, le marasme économique, les divisions entre les chefs, la corruption, tout ceci a joué et a mené vers une désintégration. Et de nouvelles élections ont ramené au pouvoir, au contraire, ensuite, une faction beaucoup plus pro-russe avec le président Yanukovych, qui lui vient de l'Est, de la région du Donbass, justement, et a mené une politique finalement beaucoup plus philo-russe. Alors, ensuite, tout a éclaté avec la révolution de Maïdan, qui elle-même a fait suite au refus par le président Yanukovych de signer un accord d'association avec l'Union européenne pour céder aux voix de sirène de Moscou, qui lui proposait une aide financière massive.
15 milliards de dollars.
Voilà, s'il renonçait à signer cet accord d'association avec l'Union européenne et s'il acceptait au contraire de se joindre à l'Union européenne eurasiatique que M. Poutine cherche à promouvoir avec les anciennes républiques soviétiques. Et c'est là-dessus que s'est faite la cassure et que s'est faite la révolution de Maïdan, dont il faut retenir, nous y reviendrons certainement, mais qu'elle traduisait une forte aspiration de la société civile ukrainienne à se tourner vers l'Europe, à lutter contre la corruption, le clientélisme, etc., et à essayer de promouvoir chez elle un état de droit appuyé sur une association avec l'Union européenne.
Oui, société civile ukrainienne, mais pas société civile unanime, puisqu'une partie de l'Ukraine aujourd'hui, semble-t-il, Philippe Delara, semble choisir, continuer à choisir, la Russie contre l'Europe. Donc je vous repose aussi à vous la même question. Que s'est-il passé ?
Eh bien, je dirais que paradoxalement, bien que le pays soit, comme vous l'avez dit, menacé d'éclatement, il me semble que c'est en fait principalement du fait de la guerre dite non linéaire. C'est le nouveau concept produit par le GRU, le renseignement militaire russe, qui est ce facteur de division et qu'au contraire, la révolution de Maïdan a été un moment de nationalisation de l'opinion et de la société ukrainienne par rapport à cette division culturelle, traditionnelle, entre l'Ouest tourné vers l'Ouest et l'Est plus tourné vers la Russie. Vous savez qu'Ukraine, le sens du mot Ukraine, c'est quelque chose comme passage ou porte ou seuil. Et paradoxalement, l'Ukraine, bien qu'étant un pays, encore une fois, avec une population composite et même deux langues différentes, puisque depuis le XVIIIe siècle, l'ukrainien et le russe, qui sont toutes deux langues proches, sont devenues deux langues différentes, avec une littérature, une grammaire, etc. Même pour ce qui est de la Crimée, il me semble qu'on ne peut pas considérer la sécession de la Crimée comme une volonté de la population, mais simplement le résultat d'une invasion suivie d'un référendum bidon.
Oui, mais quand même, pendant les manifestations de Maïdan, un certain nombre de gens à Donetsk, dans le Donbass, ont protesté, ne se sont pas inclinés devant la révolution, ont considéré que la fuite de Yanukovych résultait d'un coup d'État, et on reste quand même surpris par cette division, par cet éclatement. Car s'il est vrai que l'Ukraine et la Russie ont eu leur destin lié depuis l'origine, il n'empêche que le traumatisme de la famine, hein, de l'Holodomor, aurait pu constituer, face au soviétisme et peut-être à ce qui lui succède, un ciment suffisamment fort, précisément, pour refuser toute ingérence russe. Or, il ne semble pas que cela se soit produit. Il semble même que, c'est-à-dire, quand on propose aujourd'hui l'autonomie au Donbass, il y a beaucoup de gens à Donetsk et dans le Donbass pour dire non, nous ne voulons pas cela. Nous ne voulons pas d'une Ukraine tournée vers l'Europe. Alors là encore, je reste surpris par la virulence de cet antagonisme.
Mais je comprends très bien cela, d'autant plus qu'on le voit mal s'exprimer. Ce que l'on voit pour l'instant, surtout dans l'est de l'Ukraine, ce sont les pro-russes, qui sont bien entendu attisés, si j'ose dire, par la propagande de Radio Moscou, qui est absolument effarante. Je veux dire, la propagande sur Radio Moscou coule à plein bord, comme au meilleur temps de l'Union soviétique. Et c'est une propagande nationaliste, bien entendu. Mais, encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on est à l'est et qu'on est russophone qu'on est forcément pro-russe. Il y a pas mal d'indépendantistes là, et la guerre de larvée de ces derniers mois dans les provinces de l'Est a pris des allures de guerre civile très très souvent, parce que vous avez les uns et les autres, et qu'il y a des indépendantistes là, comme il y a bien entendu des russophiles qui veulent se rapprocher de Moscou. Mais c'est l'ingérence de la Russie qui a vraiment précipité les événements actuels.
Comment se fait-il qu'il y ait une guerre civile quand même? On ne peut pas opposer au conspirationnisme de Moscou qui attribue Maïdan à je ne sais quelle machination de la CIA, un conspirationnisme, si vous voulez, en sens inverse, qui dirait que tous les conflits internes à l'Ukraine n'existent que parce qu'ils sont attisés par Moscou, Philippe Delara.
Oui, absolument. Je maintiens quand même que le facteur principal de belligérance, c'est l'armée russe.
C'est l'armée russe.
Ceci dit, il y avait en Crimée, comme dans le Donbass, un particularisme régional très accentué et qui, dans le cas du Donbass, s'est accentué pendant la période de l'indépendance, parce que cette maturation de la société civile ukrainienne dont vous parliez à l'instant, elle s'est très peu produite dans le Donbass, entre autres du fait de la corruption et du poids de l'économie oligarchique. Si vous voulez, le Donbass, c'était un conservatoire, jusqu'à avant-hier, c'était un conservatoire de l'URSS de Brejnev. Stagnante, corrompue, refermée sur elle-même, et alors que la société ukrainienne, en dépit de la présence du même État sur la plus grande durée de l'indépendance, déficient, corrompu, très lié à Moscou, s'était développée une culture, une économie. Mais si on regarde les chiffres du référendum d'indépendance, le choix de l'indépendance était largement majoritaire dans le Donbass, bien qu'avec des chiffres moins élevés que dans le reste du pays, et tout juste majoritaire en Crimée, où il y a effectivement une population russe importante,
60%,
notamment des militaires et des militaires en retraite, parce que c'est une très belle région et beaucoup d'officiers russes s'y installent pour leur retraite. Il n'empêche que ça faisait partie de l'Ukraine. Et puis, je voudrais dire un mot de la Crimée, si vous me le permettez, qu'on a tendance à oublier parce que l'annexion paraît... autant les choses sont incertaines dans le Donbass, autant l'annexion paraît une affaire réglée, du moins pour le court terme, pour la Crimée. Mais il ne faut pas oublier la Crimée, et en particulier la population autochtone de Crimée, les Tatars de Crimée. Alors certes, ils ne sont que 12% de la population, ou 12 à 15%, 200 000. Mais pourquoi sont-ils que 200 000? C'est parce qu'ils ont été victimes, en 1944, d'une déportation génocidaire voulue par Staline, comme il l'a fait de d'autres populations soviétiques, qui ont tous déportés en Asie centrale. Et ils n'ont pu revenir dans leur pays qu'après l'indépendance de l'Ukraine, aussi tard que 1987, l'Union soviétique finissante avait certes reconnu qu'elle avait eu tort de condamner les Tatars et de les déporter, de les condamner collectivement et de les déporter, mais néanmoins n'aurait pas donné l'autorisation de s'installer chez eux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, il y a un problème criméen particulier, il y a une tragédie des Tatars et qui devrait inciter la Russie à un minimum de décence dans ce territoire où, en fait, ils sont en train de rejouer, non pas la déportation, mais la persécution des Tatars.
Parce que les Tatars ne pourront pas rester, vous pensez ? Alors, obligés de partir à nouveau ? Ils vont émigrer, vous pensez ?
Certains ont émigré. Beaucoup n'en ont pas les moyens ou la volonté. Mais ce qui se passe, c'est une politique de persécution religieuse et culturelle. Les Tatars sont un peuple turcophone, enfin d'une langue proche du turc et musulman. Et la politique russe, qui ressemble beaucoup à la politique soviétique, consiste à éradiquer toutes les institutions autonomes des minorités. Donc ce qu'on appelle le Mejlis, c'est une espèce de conseil qui a toujours été reconnu comme un interlocuteur, même informel, des pouvoirs publics. Il est interdit. Les deux dirigeants de la communauté tatare sont interdits de séjour en Ukraine. On les a laissés partir à l'occasion de voyages et on ne les laisse pas revenir.
Interdit de séjour en Russie, vous voulez?
En Crimée.
En Russie.
Oui.
Vous êtes d'accord avec
ça ? Oui, je suis d'accord avec ça. Je voudrais revenir sur une ou deux choses de M. de Lara qui sont très intéressantes. Vous avez utilisé le mot de sécession. Effectivement, il est peut-être trompeur, ce mot de sécession, puisque dans la sécession, on a vraiment le sentiment d'un mouvement autonome vers la sécession. Et là, je ne sais pas s'il faut parler de sécession ou s'il faut parler de rattachement forcé à la Russie. En réalité, l'histoire de la Crimée est trouble, puisqu'elle a été rattachée à l'Ukraine, à la République socialiste soviétique d'Ukraine, en 1954, par Khrushchev.
De manière assez artificielle.
Oui, bien sûr, complètement artificielle. C'est une espèce de cadeau que Khrushchev faisait à la République socialiste soviétique d'Ukraine. Il était ukrainien lui-même. Mais voilà, c'était artificiel. Et d'ailleurs, la Russie ne s'est pas privée ces derniers mois d'expliquer qu'elle ne faisait que normaliser, au fond, une situation qui était une situation ancienne, en détachant la Crimée de l'Ukraine. C'est pour ça que le mot de sécession est presque trompeur, dans la mesure où on a l'impression qu'une population locale s'est prononcée pour le rattachement à la Russie. Alors, ça a été le cas, parce qu'il y a eu un référendum organisé, mais je dirais presque sous occupation, parce que tous ces petits
supervisé cependant par un certain nombre d'observateurs étrangers, où il y avait aussi bien des représentants de l'extrême droite que de l'extrême gauche, notamment le parti Die Linke allemand et le NPD, enfin un parti néo-nazi allemand également.
Par exemple, les observateurs de l'OSCE n'ont pas eu accès au référendum de Crimée, donc tout ça est quand même très, très sujet à caution.
Oui, mais si vous dites, François Bigeon de Lestang, qu'au fond, la Crimée a été rattachée de manière très artificielle en 1954. Oui. Est-ce que ça veut dire que son retour au bercail est légitime ? Ou les Européens, la diplomatie occidentale, devrait-elle s'en inquiéter et considérer que ce n'est pas une affaire réglée ? Non seulement parce que le sort des Tatars est en question, mais aussi parce que ça peut bouleverser l'ordre international.
La réponse à ça est très claire, c'est que nous ne reconnaissons pas l'annexion de la Crimée. Les diplomaties occidentales, de façon générale, ne le reconnaissent pas. Et elles ne le reconnaissent pas pour une raison très simple, c'est qu'il y a deux accords internationaux que nous avons signés, nous Français, par exemple. Il y a l'acte final d'Helsinki, de la CSCE, et il y a eu l'accord de Budapest, le mémorandum de Budapest de 1994, qui garantissait l'intégrité des frontières de l'Ukraine. Dans le cas de l'acte final d'Helsinki, on proclame le principe de l'intangibilité des frontières en Europe et de la non-révision de ces frontières par la force. Donc là, vous avez un cas de révision de la frontière par la force qui est en violation flagrante de l'acte final d'Helsinki, et la Russie a violé la signature de l'Union soviétique, en l'occurrence, en annexant l'Ukraine comme elle l'a fait. Et le mémorandum de Budapest de 1994 est très intéressant, puisque c'était l'acte international dans lequel la communauté internationale prenait acte de la décision de l'Ukraine de restituer à la Russie les armes nucléaires soviétiques entreposées sur son territoire en échange d'une garantie de sécurité et d'une garantie de ses frontières par les signataires. Les signataires, c'était la Russie, les États-Unis et le Royaume-Uni. La France et la Chine ont adhéré ensuite au même ordre. Donc dans ces deux cas, la Russie garantissait l'intangibilité des frontières et l'inviolabilité des frontières de l'Ukraine. Elle a violé sa signature. Le cas est parfaitement clair. Donc nous ne reconnaissons pas l'annexion de la Crimée.
Que répondre à la Russie, je pose la question à tous les deux, quand elle se prévaut du précédent kosovar. Après tout, voilà, il y a eu une frontière tangible qui n'a pas été reconnue. Et finalement, voilà, on a été mis devant le fait accompli. Eh bien, nous vous rendons la politesse.
C'est ce que disent les Russes, en effet.
Ce que disent les Russes.
C'est ce que disent les Russes. Il n'est pas sûr que l'indépendance du Kosovo soit une bonne action. Bien sûr, c'est un argument mobilisable dans la rhétorique politique, mais le Kosovo, c'est le Kosovo. La Crimée, c'est la Crimée. Et en plus, il y a une différence, c'est que, sauf erreur, en dépit du sort de l'existence d'une minorité serbe et qui a certainement pas été bien traitée, c'est le moins qu'on puisse dire, la majorité de la population du Kosovo était favorable à cette indépendance. Or, en Crimée, ce n'est pas le cas, parce que nous savons par une fuite malencontreuse, une source officielle de Russes, on a les résultats réels du référendum et le taux de participation est très faible, moins de 50%, et l'unanimité n'est pas du tout le cas, ce qui fait qu'on peut dire que c'est 20% de la population de Crimée au maximum qui a réellement voté oui au rattachement.
Enfin, les abstentions ne signifient pas nécessairement que les autres auraient voté non.
Si ce n'est qu'au moins, pour ce qui est des Tatars, ils avaient appelé au boycott du vote. Et aujourd'hui, il y a une politique de russification forcée. C'est-à-dire que les Ukrainiens n'ont pas le droit d'être propriétaires de leur logement en Crimée. Il faut absolument qu'ils optent pour la nationalité russe. Les écoles tatares et ukrainiennes qui existaient auparavant, il y avait des écoles dans les trois langues. En Crimée, les gens pouvaient choisir librement comment la langue dans laquelle leurs enfants seraient formés. Maintenant, c'est terminé, donc il y a quelque chose de forcé. Même quant au cadeau de 54 qu'on met toujours en avant, je ne crois pas que Khrouchtchev était ukrainien, je crois qu'il était né en Russie, mais il a fait une grosse partie de sa carrière
en Ukraine,
où il a laissé très mauvais souvenir, en particulier avant la guerre, et ce cadeau avait quelque chose d'intéressé, en ce sens que la Crimée était une région dévastée économiquement, et que c'était donc un petit peu un cadeau empoisonné fait à l'Ukraine. Ceci dit, si vous me permettez, revenons à la question générale et au paradoxe qui est que ce pays a à la fois un mythe national très ancien et très fort que la révolution de Maïdan a réactivé et dans une grande mesure nationalisé, et d'autre part un lien particulier historique et culturel, avec la Russie évident, y compris sur le plan religieux. La religion largement majoritaire en Ukraine, y compris à l'Ouest, je pense, c'est l'orthodoxie. Par contre, il y a deux églises orthodoxes, le patriarcat de Moscou, qui est une annexe du Kremlin, et une église orthodoxe ukrainienne. Je voudrais juste citer un chiffre qui est d'un sondage qui date de l'élection, de la période de l'élection présidentielle, donc en mai dernier, et une majorité d'Ukrainiens se disaient favorables à une indépendance avec le maintien d'une frontière ouverte et d'un lien privilégié avec
Donc il y aurait une synthèse possible.
La Russie, c'est-à-dire pour les Ukrainiens, en tout cas pour une majorité d'Ukrainiens, en mai 2014, c'est-à-dire après la révolution de Maïdan, après les gens tués par les snipers, etc., l'opinion majoritaire concevait l'existence ukrainienne dans un rapport proche avec la Russie. Et je dirais que c'est la Russie qui a perdu l'Ukraine en n'acceptant pas une relation qui ne soit coloniale.
Vous êtes d'accord avec ça, François Bujon de Lestang ?
Oui, c'est assez vrai. Il y a des gens qui vont même plus loin et qui disent la Russie a gagné la Crimée et elle a perdu l'Ukraine. C'est une façon de voir les choses. Mais vous avez raison. Le maximalisme russe, en l'occurrence, a repoussé une grande partie des Ukrainiens dans leur intransigeance à l'égard de Moscou.
Mais là, j'aurais quand même une question à poser. Alors, le maximalisme russe est évidemment incarné aujourd'hui par Poutine, qui a déclaré, on a abondamment commenté cette phrase, que la plus grande tragédie du XXe siècle, c'est l'effondrement de l'Union soviétique, qui veut créer, semble-t-il, une URSS 2.0, hein, c'est oui, une URSS de la révolution technologique, qui a une politique impériale, une sorte, j'ai parlé de la Chine la semaine dernière et de la synthèse énigmatique du capitalisme et du communisme. Avec la Russie, on aurait une sortie du communisme non démocratique et impérial. Mais, là-dessus, je voudrais vous interroger. Il y a peu de temps, en marge des célébrations du 25e anniversaire de la chute du mur, Gorbatchev a réuni à Berlin son think tank international. Et il a mis en cause très vivement l'euphorie triomphaliste qui serait montée à la tête des dirigeants occidentaux après la chute du mur. Ils auraient pris avantage de l'affaiblissement de la Russie pour proclamer un monopole de leadership sur le monde. Ils ne se seraient pas souciés de bâtir de nouveaux mécanismes de sécurité en Europe. Et ce faisant, son discours entrait en résonance avec celui qu'a prononcé Poutine à Sotchi lors de la réunion du club international Valdaï, un discours du 24 septembre où il s'en prend très vivement à la démesure, à l'hubris de l'hyperpuissance après la chute du mur, où il dénonce l'attitude des Occidentaux au moment où ils auraient pu procéder à une négociation civilisée, dit-il, pour ce qui concerne l'avenir de l'Ukraine, et il en appelle, comme Gorbatchev, à la constitution d'un nouvel ordre mondial. Alors, je voudrais savoir s'il y a quelque chose à garder de ce discours, de cette plainte russe. L'Europe et les Occidentaux en général ont-ils, comme on le prétend souvent au Quai d'Orsay, comme le dit d'ailleurs Hubert Védrine, humilier la Russie, François Bugeon-Destan.
Alors là, on entre dans un terrain difficile qui est celui des griefs de la Russie à l'égard de l'Occident et de la lamentation de la Russie sur son propre destin et sur la fin de l'Union soviétique. Il y a plusieurs choses à dire là-dedans. On peut essayer de les classer pour y voir plus clair. Premier point, il ne fait absolument aucun doute que les Russes, dans leur ensemble, ou les Soviétiques, si vous voulez encore, en 1991, ont éprouvé un terrible sentiment d'humiliation. Le régime s'est effondré de lui-même, sans intervention étrangère. Il s'est effondré du fait de sa propre impéritie, de son échec économique, et du fait qu'au fond, plus personne ne croyait à rien dans l'URSS des dernières années. Ça, c'est vraiment le cas. Mais ce qui s'est passé ensuite, c'est-à-dire la mise, les oligarques mettant la main sur les richesses de l'État, la paupérisation de classes entières de la population, notamment de celles qui avaient servi le régime soviétique. Enfin, tout ceci a créé un terrible sentiment d'humiliation dans le peuple russe. Il n'y a aucun doute là-dessus, et notamment dans les serviteurs de l'État soviétique, comme l'était à l'époque M. Gorbatchev, lieutenant-colonel du KGB, opérant en Allemagne de l'Est, et qui a assisté aux premières loges, au fauteuil d'orchestre. Gorbatchev, excusez-moi, je voulais dire Poutine, naturellement, merci. Poutine a assisté au fauteuil d'orchestre à l'effondrement de l'Empire, et il ne l'a jamais digéré. C'est pour lui une espèce de souffrance, d'où la fameuse phrase que vous avez citée. Donc ça, c'est une première chose. Il n'y a pas de doute qu'ils l'ont vécu comme une humiliation. La seconde chose, c'est le facteur personnel Poutine. Je voudrais revenir là-dessus. Poutine est un homme qui a été fabriqué par l'Union soviétique. C'est un homo sovieticus absolument parfait et complet. Mais il garde la nostalgie de l'Empire, comme il est compréhensible. Il garde une vindicte à l'égard de l'Occident, dont il estime en effet qu'il a humilié la Russie. Et au fond, il veut rétablir l'impérium, si vous voulez. Il voudrait rétablir l'Empire du mieux qu'il le peut et en utilisant les moyens qui sont à sa disposition. C'est un pragmatique et c'est un tacticien, plus sans doute qu'un stratège. Je crois que c'est ça qui le guide. Et l'Ukraine, c'est une partie fondamentale de l'Empire. Elle a été liée depuis toujours à l'histoire russe, mais Zbigniew Brzezinski, par exemple, qui est un bon connaisseur de cette partie du monde, a une formule lapidaire, je trouve excellente. Il dit « Sans l'Ukraine, pas d'Empire ». Et Mais ça montre le caractère crucial de l'Ukraine pour tous les projets de restauration de l'Empire. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est celui dont parlait M. Gorbatchev, c'est-à-dire la controverse qui est quasi historique sur ce qui s'est passé entre 89, ouverture du mur de Berlin, et 91, effondrement de l'Union soviétique. Et effectivement, un certain nombre de Russes, et notamment Gorbatchev, ont pensé que l'Occident ne pousserait pas l'OTAN au-delà de sa zone naturelle et ne chercherait pas à augmenter le périmètre de l'Alliance Atlantique. Eh bien, ces espoirs ont été évidemment balayés par l'avancée de l'OTAN qui a rapidement récupéré, si j'ose dire, les anciens pays du pacte de Varsovie, à leur demande, bien entendu, à leur demande. Ce n'était pas une annexion, oui. Cela. C'était des peuples, les Polonais, et même les Baltes, qui voulaient, au contraire, se trouver protégés contre des regains de nationalisme russe et qui voulaient adhérer à l'OTAN. Mais dans l'esprit de certains, et Gorbatchev, je crois, traduit ce sentiment, il y aurait eu un engagement de l'administration Bush père, bien entendu, à l'époque du mur de Berlin, de ne pas englober l'Allemagne de l'Est dans l'OTAN. Et c'est cet engagement qui n'aurait pas été respecté. Alors ça, c'est un argument que Poutine et tous les Poutiniens utilisent jour et nuit, matin et soir, et auquel les gens de l'administration Bush, que j'ai fréquenté, que j'ai interrogé sur ce point, répondent en disant les Russes avaient perdu la guerre froide. Quand on a perdu une guerre, on ne peut pas s'attendre évidemment à ne pas en subir les conséquences.
Ah oui, mais d'autre part, vous dites dans un article que vous avez publié dans la Revue des Demandes, oui. François Bujon de Lestang, que l'Europe a été maladroite, c'est-à-dire que son partenariat oriental...
Alors ça, c'est dans l'affaire du partenariat oriental.
C'est plus récent.
Oui.
Mais enfin, disons, cela semble légitimer certains griefs russes, ceux de Gorbatchev et surtout ceux de Poutine. Il aurait été possible, dites-vous, de concilier ce partenariat oriental, c'était pas tout à fait l'entrée dans l'OTAN, mais c'était un partenariat proposé à l'Ukraine, avec le projet russe de zone de libre-échange eurasiatique. Il fallait au moins tâcher de persuader Moscou qu'il ne s'agissait pas d'une alternative radicale.
Oui.
Et l'Europe ne l'a pas fait, d'où la crispation russe, d'où évidemment la crise, puisque Yanukovych a été forcé d'abandonner ce projet. Il y a eu Maïdan, etc., etc. Donc vous mettez en cause, malgré l'unilatéralité de la politique européenne.
Je dis ça et je le pense. Alors ce n'est pas l'OTAN, n'est-ce pas ?
Sur l'OTAN,
nous avons une position que nous avons exprimée au sommet de Bucarest en 2008. La France et l'Allemagne ont déclaré qu'elles étaient hostiles à l'entrée de l'Ukraine et de la Géorgie dans l'OTAN. Et ceci reste jusqu'à aujourd'hui, à ma connaissance, la politique de nos pays respectifs. Bien, contrairement à quelques tendances américaines qui sont toujours de pousser à l'inclusion de la Géorgie et de l'Ukraine dans l'OTAN. Mais là, dans le cas de l'accord d'association, qui n'est qu'un accord d'association, encore une fois, il ne s'agit pas de faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne, de cela il n'est pas question. Mais dans l'accord d'association, qui d'ailleurs, contrairement à celui conclu avec la Turquie en 63, ne comporte pas de perspective d'adhésion ultérieure, effectivement, on crée une association qui est de nature commerciale, économique avec l'Ukraine. Et là, je fais en effet le reproche à l'Union européenne d'avoir préparé ça de façon un petit peu bureaucratique et de ne pas être allé voir les Russes pour leur dire, écoutez, il ne s'agit pas de monter une machine de guerre contre vous, mais au contraire d'ouvrir des perspectives commerciales. Et comment peut-on faire pour que ce ne soit pas incompatible avec ce que vous voulez faire? On ne l'a pas fait. Alors les eurocrates se défendent en disant, mais à l'époque où on concevait le partenariat oriental, au moment où nous proposions un accord de partenariat avec l'Ukraine, nous en avons proposé un similaire à la Russie qui n'a pas été intéressé. C'est exact, historiquement. Mais je pense quand même qu'on aurait pu, en voyant les réticences du Kremlin, essayer de voir avec la diplomatie russe si l'on pouvait rendre tout cela compatible et non antagoniste.
Philippe Delara, est-ce que vous pensez que l'Europe a manqué de tact diplomatique dans cette affaire ?
Je ne dirais pas qu'elle a manqué de tact diplomatique, je dirais qu'elle a manqué d'intelligence de la situation, qu'elle a commis donc une erreur majeure de bonne foi. Mais je voudrais dire d'abord une chose qui me paraît plus importante, qui pèse plus lourd sur la crise actuelle que les erreurs éventuelles ou avérées des Américains ou des Européens. c'est que ce qui se passe aujourd'hui, et la Russie n'est pas en bonne posture, parce qu'elle est engagée dans une voie isolationniste qui est en même temps totalement contradictoire avec son insertion dans l'économie mondialisée. La Russie ne peut pas devenir la Corée du Nord. Alors que va-t-elle devenir ? Et ceci est la némésis de l'URSS. C'est-à-dire que la Russie, et c'est un choix collectif, on peut dire, qui a été fait et qui n'était pas donné d'avance, a été de ne pas reconnaître la chute de l'URSS comme une défaite militaire, oui, politique et morale, et l'URSS comme le régime criminel qu'elle était. On a tourné la page sans examen de conscience. Et c'est ce qui fait que très très vite, l'idéologie soviétique sous une forme renouvelée, c'est-à-dire sans la propriété collective des moyens de production, mais avec tout le reste, et notamment le culte de Staline, l'accentuation de la vocation impériale, toutes les légendes de la version soviétique de la Seconde Guerre mondiale, pour lesquelles la Shoah n'a pas vraiment eu lieu. Hein. Il y a eu des millions les nazis ont assassiné des millions de paisibles citoyens soviétiques, mais il ne faut pas faire la différence entre les Ukrainiens, les Polonais, les Juifs, les Russes. Donc je dirais que la Russie, au lieu de redevenir la Russie, et pour moi c'est une tragédie, est devenue un zombie de l'URSS. Alors ceci dit, très brièvement sur le premier point de votre question qui était la maladresse des Européens, nous avons fait une erreur massive qui était de considérer que dès lors que le communisme s'était effondré, la Russie était un État occidental défectueux. Bien sûr, il y avait des choses qui n'allaient pas, la corruption, l'économie oligarchique, mais au fond, ils étaient en train de devenir comme nous. Et on ne s'est pas posé de questions. Ce qui est très frappant au moment de la chute du mur, c'est que les dirigeants occidentaux, aussi bien François Mitterrand que George Bush senior, sont obnubilés avant tout par la question allemande, les conditions de la réunification allemande, le maintien de l'Allemagne dans l'OTAN, etc. Et la Russie, on l'oublie un petit peu. Si on s'est intéressé à l'Allemagne et à l'Europe centrale et orientale, où il se passait des choses majeures, mais tout se passe comme si on a non pas humilié, mais oublié la Russie, et qui s'est, je dirais, humiliée toute seule en retombant dans le fantôme de l'URSS.
Le fantôme de l'URSS, dites-vous, mais en même temps, l'idéologie mise en œuvre ou déployée au Kremlin est un peu différente, bien sûr, du communisme. C'est l'idéologie ou le projet eurasiatique. Vous dites, François Bujon de Lestang, que peut-être il y avait une conciliation possible entre ce projet et l'initiative du partenariat oriental, sauf que ce projet a une coloration idéologique très forte. Il apparaît comme une révolution conservatrice, dirigée à la fois contre la menace islamique, contre la décadence des mœurs et contre la finance internationale. Et il exerce une certaine attraction sous nos climats. Et donc la même Russie qui dénonce la part prise par les fascistes dans la révolution de Maïdan, et il est vrai qu'il y a une certaine extrême droite qui était présente, et que les héros nationalistes sont célébrés aujourd'hui, comme Bandera par exemple, mais cette même Russie flirte avec l'extrême droite européenne, du parti Jobbik à Obdoré en Grèce, jusqu'au Front National en France. Le Front National se défend aujourd'hui d'être un parti d'extrême droite. Il n'empêche, il manifeste la même attraction pour le modèle russe. Alors, y a-t-il des raisons de s'inquiéter, premièrement, et deuxièmement, pourquoi la Russie favorise-t-elle d'une telle manière tous les mouvements nationalistes, en tout cas en Europe ? A-t-elle intérêt à désintégrer l'Union européenne afin de négocier de pays à pays et de pouvoir exercer sur chacun d'entre eux une pression énergétique vu qu'elle a du pétrole et du gaz, plus facile que sur une Europe unie. François Bujon de Lestang.
Plusieurs éléments, si vous permettez. D'abord, oui, effectivement, la Russie cherche à affaiblir l'Union européenne. Elle n'aime pas l'Union européenne. Elle considère que c'est une antichambre de l'OTAN. Elle ne l'aime pas. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir comment elle traite. Elle traite avec Berlin, Paris ou Rome. Elle ne traite pas avec Bruxelles, d'une façon générale. Ça, c'est tout à fait caractéristique de la conduite russe. Mais fondamentalement, la Russie a choisi récemment, finalement depuis la réélection de M. Poutine en 2012, de prendre une posture anti-occidentale. Bon, ça, c'est un choix qu'elle a fait, qu'a fait M. Poutine pour elle, disons, et qui rencontre d'ailleurs des échos très favorables dans l'opinion publique russe. Ça n'a pas toujours été le cas. À l'époque d'Yeltsin, vous disiez qu'on a considéré que les Russes étaient des quasi-européens un petit peu imparfaits. C'est vrai, mais c'est parce que M. Yeltsin tirait l'attelage, lui, dans l'autre sens. Ceci correspond d'ailleurs à l'histoire russe, dans laquelle il y a toujours eu un balancement entre les slavophiles
et
les occidentalistes. En ce sens, Yeltsin était un occidentaliste, il voulait devenir un pays d'Occident, au fond, comme les autres, tout en gardant des spécificités bien russes. On a fait entrer la Russie dans le G7, qui est devenu G8, enfin, il y a toutes sortes d'éléments de cette époque. Poutine a choisi quelque chose de complètement différent à partir de son retour au pouvoir, enfin, de son retour dans le poste, dans les fonctions de président de la République en 2012. Et Poutine considère ouvertement, il le dit, il le déclare, l'Occident comme décadent, les valeurs occidentales comme décadentes, et il s'oppose à elles. Il a l'aspiration à rétablir l'Empire, nous l'avons dit, mais ce n'est pas vraiment un idéologue, au fond. C'est un homo sovieticus, je l'ai dit, mais là-dedans, le communisme a été perdu en cours de route. Ça ne l'intéresse pas, c'est fini, c'est perdu, la page est tournée. Et il a remplacé un petit peu ce qu'était le Parti communiste par le patriarcat de Moscou et par l'Église orthodoxe. Et il a forgé une espèce de sainte alliance entre le pouvoir et la verticale du pouvoir, c'est-à-dire un pouvoir extrêmement autoritaire dans lequel les libertés, notamment la liberté de la presse, sont régulièrement foulées aux pieds, les libertés individuelles, les ONG sont traquées, etc. Et l'Église orthodoxe dont il défend les valeurs. Et le modèle russe, dans la mesure où on peut en parler, est effectivement un petit peu cet URSS 2 à ceci près qu'il n'y a plus de communisme là-dedans. On l'a perdu en cours de route, on l'a oublié. Mais il y a l'idée de forger quelque chose qui est un refus de l'Occident, qui cherche par conséquent des alliances avec d'autres pays qui, à leur manière, à eux, refusent l'Occident, comme la Chine, puisque manifestement les Russes se précipitent dans les bras des Chinois aujourd'hui. Ils l'ont démontré, ils vont continuer de le démontrer. Et voilà, c'est une posture. Il s'y ajoute le fait que Poutine, qui a détesté la révolution orange en Ukraine, qui a détesté les autres révolutions dites de couleur dans d'autres anciennes républiques soviétiques, a eu très peur avec les manifestations d'un certain nombre d'opposants et de dissidents après sa réélection, qui a pourtant été très confortable et dans laquelle il n'aurait pas eu besoin de bourrer les urnes, il a eu peur que l'Amérique cherche à le renverser avec une nouvelle révolution orange. Et pour lui, ça a été une forme de déclaration de guerre.
Parce qu'il voit l'Amérique
dans toutes
les révolutions
oranges. Absolument tous les Russes que je vois ces dernières semaines me disent tous la même chose. Poutine voit la main, bien entendu, de la CIA, de l'OTAN, des États-Unis, dans tout ce qui s'est passé en Ukraine, dans la révolution orange, dans la révolution de Maïdan, et dans les propres manifestations auxquelles il a eu à faire face en Russie. Il est convaincu que les Américains voudraient changer le régime en Russie. Regime change, c'était un des refrains de l'opération irakienne, donc il le reprend. Et il dresse cet acte d'accusation, pas contre les Européens, mais contre les Américains. Et ceci explique beaucoup de ses attitudes actuelles.
Et Philippe Delara, a-t-on des raisons de s'inquiéter en Europe de l'attrait exercé, très puissant attrait exercé par Poutine, l'idéologie eurasiatique, sur toute la réacosphère européenne. Est-ce que ça paraît une alternative crédible? Est-ce qu'il y aurait des chances qu'on aille vers un retournement d'alliance ou que ça accélère la désagrégation de l'Union européenne? Philippe Delara.
Alors, je pense que la crédibilité... Il arrive qu'on se trompe en disant ça. C'est trop idiot, c'est trop inconsistant pour avoir la moindre la moindre crédibilité, le moindre avenir, cet eurasisme, ce retour aux valeurs chrétiennes, soi-disant chrétiennes, parce qu'en réalité, c'est pas la chrétienté, c'est l'orthodoxie. Et quand on voit les intégristes catholiques faire les yeux doux à Poutine, ils sont vraiment idiots, parce que pour les idéologues de Moscou, ce sont des hérétiques, et non pas des chrétiens d'une autre église. Bref, tout ça n'est pas très, très, très consistant. Il reste qu'il y a cette alliance systématique, quasiment systématique, extrême-gauche, extrême-droite, avec la Russie, qui se concrétise en particulier au Parlement européen, dans certaines déclarations de Marine Le Pen, et a fortiori dans les extrêmes droites qui sont à l'extrême droite du Front National, comme Obdoré ou Jobbik. L'extrême gauche, elle, est divisée. Par exemple, il y a une Mélenchon et je dirais éhontément pro-russe, mais l'opposition interne justement se distingue, s'oppose à lui, notamment sur l'affaire ukrainienne. Je ne vois pas un avenir politique dans nos pays à cette affaire. En revanche, l'opération d'affaiblissement et de déstabilisation de l'Union européenne, elle doit être prise au sérieux, parce que malheureusement, je dirais que l'Union européenne s'y prête, par sa manière de fonctionner comme une bureaucratie abstraite qui ne connaît que le marché et les droits de l'homme. C'est pour ça que la crise ukrainienne est vraiment une épreuve de vérité pour nous, Européens, parce qu'elle nous oblige à réapprendre le sens d'un mot que nous avions, que l'Europe a essayé par tous les moyens de rayer de la conscience commune, c'est le mot « frontière ». Il est tout à fait possible de construire une relation positive avec la Russie, avec le monde russe, mais à condition de savoir qui on est et qui sont nos voisins, et de les traiter comme des voisins et non pas comme des candidats. Pour l'Union européenne, il n'existe sur la Terre que des fous, comme Daesh, etc., ou des candidats potentiels
à l'intégration dans l'Union européenne.
À l'intégration dans l'Union européenne, et c'est évidemment une folie.
Oui, mais ça vient aussi peut-être du fait que l'Union européenne a, au nom justement des valeurs universelles, rompu avec sa propre civilisation dans ce qu'elle a de particulier. Et il est vrai qu'on est triste d'entrer dans un monde où il faudrait choisir entre une sorte de révolution conservatrice sur le modèle de Poutine et le tout est égal qui se répand sous les formes d'un nihilisme exacerbé en Occident. Mais justement, vous parlez d'une épreuve de vérité, Philippe Delara. Là, les chars russes semblent entrer dans le Donbass. On se prépare un retour de la guerre. Le cessez-le-feu conclu au mois de septembre ne tient plus. Si la guerre reprend, que doit être, selon vous, l'attitude de l'Europe? Jusqu'où peut-elle aller? La France, l'Allemagne ont des contrats très importants avec l'Ukraine. Les grands patrons du CAC 40 s'alarment des sanctions prises contre la Russie. C'était notamment le point de vue de Christophe de Margerie, l'ancien patron de Total. Donc la marge de manœuvre de l'Europe est assez étroite. Mais peut-elle assister à cette reprise de la guerre, les bras croisés? François Pigeon.
Les deux, mon général, j'allais dire. C'est-à-dire que d'une part, il est clair que nous avons tous des intérêts économiques très importants en Russie, beaucoup plus d'ailleurs que les Américains, il faut le signaler, ça aussi c'est important, ça distingue beaucoup les pays européens des États-Unis. Mais d'autre part, on ne peut pas laisser faire, bien entendu, des agissements comme ceux de M. Poutine, dont on ne sait d'ailleurs pas ce qu'il veut faire, car il y a au fond deux scénarios. Le scénario, je dirais, optimiste, c'est qu'il veut entretenir un conflit, un ces nombreux conflits gelés dans lesquels il peut exercer à loisir des pressions sur Kiev. L'autre, c'est qu'il veut faire davantage et qu'il veut vraiment détacher les provinces de l'Est et se tailler un corridor qui lui permettra de raccrocher la Crimée territorialement à la Russie, puisque pour l'instant il y a une solution de continuité entre la Crimée et la Russie, et que la Crimée va très vite coûter cher à la Russie. Donc il y a toutes sortes de scénarios possibles entre lesquels on ne sait pas que choisir, et l'avenir va nous répondre malheureusement. Mais on ne peut pas rester l'arme au pied à ne rien faire, et on ne peut pas sanctionner des comportements qui sont des comportements contraires à toutes les valeurs internationales que nous défendons. Alors il faudra trouver la voie étroite qui permet de ne pas trop compromettre nos intérêts économiques et malgré tout de sanctionner la Russie. Alors un dernier mot pour dire deux choses. Le premier, c'est que l'Union européenne est quand même très géographiquement diversifiée et que nous parlons de tout ça dans le confort parisien, mais que si nous étions estoniens, lettons ou polonais, nous aurions une toute autre vision des choses et une appréhension très très grande, parce que quand ils entendent Poutine dire qu'il veut protéger les minorités russophones où qu'elles se trouvent et en ignorant les frontières, si vous êtes letton, vous ne pouvez que mal dormir. Bon, ça c'est un premier point. Le second, c'est pour revenir juste un instant sur ce que vous disiez tout à l'heure à propos de l'Union Eurasiatique, qui est plus en effet qu'une simple union douanière dans l'esprit de M. Poutine. Ça, c'est un aspect qui dérange pas mal de ses participants. Et du coup, que ce soit M. Loukachenko à Minsk ou M. Nazarbayev au Kazakhstan, l'union douanière, oui, les arrangements économiques, oui. Reconstruire quelque chose de plus politique, c'est une toute autre affaire, et ce sera un chemin très difficile pour M. Poutine.
Philippe Delara, alors un dernier mot. Que doit être, selon vous, l'attitude de l'Europe vis-à-vis de la Russie, de M. Poutine ?
Je crois que si on veut échapper à la tragédie et pour l'Ukraine, c'est-à-dire un bain de sang, l'Ukraine n'acceptera jamais. Il y a un seuil qui a été passé avec la révolution de Maïdan et sa consolidation par les dernières élections législatives. Donc les Ukrainiens ne se laisseront pas annihiler. Donc si on ne fait rien, ce sera une épouvantable tragédie. Et je pense qu'il est possible d'avoir une politique de rollback, c'est une politique de sanctions très énergique, car les sanctions font très mal à la Russie, beaucoup plus qu'aux entreprises occidentales qui ont des intérêts en Russie et qui évidemment s'inquiètent des retombées. Le rouble vient de dévisser, et je pense que la politique de M. Poutine, qui est, disons, idéologiquement et culturellement très en phase, malheureusement, avec sa population, pour l'instant, est par ailleurs très aventuriste. Et je ne prendrai pas de pari sur sa longévité politique.
Bon, mais écoutez, très bien. Nous terminons sur cette note de relatif optimisme. Merci beaucoup, François Béjon de Lestang. Merci beaucoup, Philippe Delara. Vous trouverez les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable un an et réécoutable 1000 jours. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « L'héritage de Freud ». Mes invités seront Elisabeth Roudinesco et Fethi Benslama. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et Alexandra Malka. À la technique aujourd'hui, Claire Levasseur, dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet, quand l'Église croyait déjà aux guerres justes.